journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un maire sur la touche et un Premier ministre probablement embarrassé. C'est le maire du Havre qui a démissionné hier soir pour cause de selfies compromettants. Quatre femmes accusent le successeur d'Édouard Philippe de leur avoir envoyé ces photos. France Inter vous révèle leur témoignage. Une nouvelle date fatidique pour le Brexit, c'est le 12 avril, imposé par les Européens réunis à Bruxelles hier soir. Nous y serons dans un instant. Des militaires inquiets d'être déployés dans les rues de Paris demain pour la manifestation des Gilets jaunes, témoignage rare dans ce journal. Et que dire du climat ambiant? Vivons-nous un retour aux années 30? La démocratie est en danger? Ce postulat, c'est celui de votre invité dans 20 minutes, Nicolas.
Oui, Michael Fessel, philosophe, il se demande effectivement si l'histoire se répète ou si elle récidive. Voilà le titre de son livre, Récidive, aux presses universitaires de France. On en débat avec lui tout à l'heure et avec vous, 01 45 24 7000.
À la une également, un nouveau vendredi de manifestation en Algérie avec le soutien du FLN, désormais, mais c'est trop tard pour les Algériens. La réserve de Scandola, menacée par la plaisance des associations, tire la sonnette d'alarme. Et puis du foot, les champions du monde contre les 170e du classement FIFA France-Moldavie ce soir. Premier match de qualification pour l'Euro 2020.
France Inter.
Le Havre, premier port commercial de France, la ville du Premier ministre Édouard Philippe. Il en a été maire pendant 7 ans avant de laisser sa place à son premier adjoint Luc Lemonnier en mai 2017. C'est cet homme qui a démissionné hier soir à la veille des révélations de la cellule investigation de Radio France et de France Bleu Normandie. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Florence.
Les voici, ces révélations, des témoignages de plusieurs femmes que vous avez rencontrées. Elles accusent Luc Lemonnier de leur avoir envoyé des selfies pornographique.
Oui, quatre femmes qui nous ont raconté sensiblement la même histoire. Toutes connaissaient Luc Lemonnier pour des raisons personnelles ou politiques et toutes ont eu un jour la surprise de recevoir des photos pornographiques du maire du Havre sans les avoir sollicitées, comme nous l'a raconté Élise, dont nous avons modifié le prénom et la voix.
J'ai pas compris en fait au début pourquoi je recevais ça. Et il me disait que c'était pour me montrer son ouverture d'esprit et qu'il était ouvert pour toute proposition, quoi. Je me suis senti sali, souillé, n'ayant rien demandé du tout. Alors peut-être que c'est très naïf, mais pour moi, un homme politique doit avoir une certaine ligne de conduite.
Élise,
moi, ça m'a vraiment dégoûté.
Élise n'a pas porté plainte, mais comme une autre femme que nous avons rencontrée, elle a tenté d'alerter des élus de l'hôtel de ville en leur envoyant les clichés. Conséquence, toutes les deux se sont retrouvées convoquées chez le procureur de la République pour avoir divulgué des photos personnelles.
Alors la question maintenant, Sylvain, c'est de savoir si Édouard Philippe pouvait ignorer ces allégations contre son successeur.
Oui, parce que Luc Lemonnier, c'est l'homme qu'Édouard Philippe avait choisi en 2014 pour être son directeur de campagne au municipal. C'était son premier adjoint. Or, de nombreux élus en Normandie, y compris de premier plan, nous ont confirmé qu'ils avaient connaissance, à des degrés divers, de son comportement avec les femmes. Un comportement qui a été évoqué, d'après nos informations, lors de réunions à l'hôtel de ville. Dans ce contexte, effectivement, Édouard Philippe, qui disait récemment dans la presse locale ne rien ignorer de ce qui se passe au Havre, était-il au courant? Le Premier ministre s'est en tout cas rendu au Havre discrètement. Hier matin, il a rencontré Luc Lemonnier. Quelques heures plus tard, le maire démissionnait.
Sylvain Tronchet, merci. Une décision responsable, écrit le Premier ministre dans un communiqué. Édouard Philippe, qui prend acte de cette démission de Luc Lemonnier, qui secoue la ville du Havre ce matin où vous vous trouvez, Sébastien Sabiron. Sébastien, quelles sont les premières réactions à cette démission?
Eh bien écoutez, ici devant l'imposant hôtel de ville du Havre, on oscille entre incrédulité, stupéfaction et une forme de relativisme à la normande, à l'image de Richard, un peu surpris par nos questions.
Sans blague, mais j'étais pas au courant. Démissionner notre maire par rapport à ce qui s'est passé, ses photos, tout ça. Il a pas respecté les règles du jeu, il s'est fait avoir et puis la politique, la moralité maintenant ne transige pas. Donc tant pis pour lui, il a joué, il a perdu. Hein.
Car si beaucoup ignorent ici encore la démission de Luc Lemonnier, l'affaire des selfies porno avait fait le tour de la ville.
Comme moi là, je suis un stagiaire à la mairie, j'ai entendu ça, ça m'a surprise quand même.
On en parle beaucoup à la mairie.
Oui, j'entends quand même. Ça ne peut pas me choquer parce que je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Moi, je peux pas juger le monsieur, je peux pas juger ni l'un ni l'autre, je sais pas.
En tout cas, tous ici nous le disent, impossible en 2019 qu'une telle affaire n'ait pas de conséquences politiques.
C'est grave, nous on nous demande une certaine exemplarité. Et puis après, sa vie privée, qu'il soit libertin ou pas, c'est pas grave en soi, mais c'est les histoires de harcèlement, etc. C'est grave pour le maire d'une grande ville comme là. Tout ce qu'on a entendu, les MeToo, etc. Je crois que les langues se délient et puis c'est une bonne chose. Mais je pense qu'Édouard Philippe était au courant des agissements de Luc Monnier.
Car l'ombre d'Édouard Philippe n'est jamais très loin dans les conversations. Savait-il ou non? Sommes-nous au début de l'histoire? C'est la question que se posent de nombreux Havrais ici ce matin.
Sébastien Sabiron en direct du Havre avec Romain Lucquens. Et j'ajoute que l'enquête complète de France Inter sur Luc Le Monnier est à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 8h05, Florence. Le Brexit selon Bruxelles.
27 chefs d'État européens face à Theresa May. Ils ont repris la main hier soir pour border cette inextricable sortie des Britanniques. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Florence.
Au terme d'une longue soirée de discussion, les 27 ont présenté deux options vers 1h du matin. Un plan A, si tout finit par bien se passer à Londres. Un plan B, Bertrand, beaucoup plus radical.
Oui, dans le premier cas de figure, si les députés britanniques votent l'accord de retrait tel qu'il a été conclu par Theresa May et Michel Barnier, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aura lieu en bon ordre le 22 mai, c'est-à-dire à la veille des élections européennes, pour ne pas perturber le scrutin. En revanche, si la Chambre des communes rejette le texte pour la troisième fois, alors le délai de sortie est fixé au 12 avril, date butoir au-delà de laquelle Londres ne peut plus organiser cette élection. Les européennes constituent donc le pivot de la réflexion des 27 pour éviter une éventuelle interférence britannique dans le scrutin. Mais la solution imaginée hier soir se veut aussi bienveillante et incitative en laissant davantage de temps à la Grande-Bretagne au cas où l'accord de retrait serait finalement adopté.
Bertrand, bienveillante et incitative, cette date butoir du 12 avril ressemble quand même à une ultime pression sur les députés britanniques.
Oui, une pression en termes de calendrier, car pour obtenir un délai de grâce, le Parlement doit voter dès la semaine prochaine. S'il acceptait enfin l'accord de retrait, le Royaume-Uni bénéficierait d'un bonus supplémentaire de plusieurs semaines avant de sortir de l'Europe. Cela dit, les 27 n'y croient pas beaucoup, mais ils ont assoupli leur position pour montrer qu'ils ont laissé à Londres cette ultime chance de ne pas aller dans le mur. Le feuilleton du Brexit n'est pas terminé pour autant. Donald Tusk, le président du Conseil européen, considère que tout peut arriver d'ici le 12 avril.
Voilà pour cette reprise en main des errements britanniques. Merci Bertrand Galichet en direct à Bruxelles, d'où Emmanuel Macron a aussi décidé de prendre l'Europe en main face à la Chine en plein expansionnisme économique avec ses nouvelles routes de la soie. Emmanuel Macron annonce une rencontre groupée mardi à l'Elysée entre le président Xi Jinping en visite en France à partir de dimanche, la chancelière allemande et le président de la Commission européenne, le président de la République au micro de Cyril Graziani.
J'ai décidé que nous devions innover pour parler de multilatéralisme. J'ai donc invité à Paris la chancelière Merkel et le président Juncker. Ça n'a jamais été fait, mais j'ai souhaité pouvoir mettre en œuvre l'idée que pendant plusieurs mois j'avais défendue. C'est-à-dire dire quand on parle aux Chinois du multilatéralisme, on a besoin d'avoir une Europe groupée. Et donc j'ai proposé à la chancelière, au président Juncker, ils seront là et ensemble nous parlerons au président Xi Jinping mardi matin.
La déclaration exclusive d'Emmanuel Macron au micro de Cyril Graziani. L'Europe à 2 mois des élections européennes. C'est enfin ce matin le ralliement d'une figure des Gilets jaunes à Nicolas Dupont-Aignan. Benjamin Cauchy figurera en position éligible sur la liste Debout la France. Les Gilets jaunes et ce nouveau samedi de manifestation qui fera l'objet de toutes les attentions après la casse des Champs-Élysées la semaine dernière et les annonces du gouvernement. L'attitude des militaires de l'opération Sentinelle sera particulièrement scrutée, appelé à sécuriser des monuments parisiens et le quartier de l'Élysée, ce qui fait hurler l'opposition. Mais les militaires eux-mêmes sont inquiets, comme ce soldat qui a fait 14 mois d'opération Sentinelle. C'est un témoignage rare recueilli par Gaëlle Joly.
On n'a rien à faire dans ces histoires de gilets jaunes. On n'est pas là pour se battre contre notre peuple. On travaille pour la France, on ne travaille pas pour un gouvernement, on travaille pour la France. Les mecs de Sentinelle, ils sont formés comme moi, c'est tous des militaires. On ne sait pas faire du maintien de l'ordre, on n'a pas le matériel nécessaire. Parce qu'on a le gilet pare-balles sur nous et le fusil d'assaut. Et on n'a pas le matériel de protection que vont avoir les CRS. On n'a pas les protège-jambes, on n'a pas toutes leurs espèces de carapaces qu'ils ont sur eux. On n'a pas le même casque qu'eux, on n'a pas de bouclier, on n'a pas de tonfa, on n'a rien de tout ça. Si les gilets jaunes, ils veulent s'en prendre à tel bâtiment protégé par l'opération Sentinelle, ils vont forcément s'en prendre aux mecs de Sentinelle. Ils vont se retrouver que tel le serpent qui est acculé dans son petit trou, quoi. Il y a un moment, il va mordre le serpent. Malheureusement, il risque d'y avoir des morts.
Et demain, les manifestations seront interdites dans les centres-villes de Nice et de Bordeaux, comme elles le seront sur les Champs-Élysées à Paris. L'appel à la prière musulmane diffusé dans toute la Nouvelle-Zélande cette nuit. Il était 13h30 là-bas, journée d'hommage aux 50 morts de l'attaque l'attaque de Christchurch, abattue par un suprémaciste blanc dans deux mosquées de la ville vendredi dernier. Algérie, un mois de contestation maintenant, et c'est un cinquième vendredi de manifestation qui s'annonce contre Abdelaziz Bouteflika et son clan. Et signe que la situation évolue, le FLN, indéfectible soutien du président, a tourné Kazakh il y a deux jours. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance soutient la rue, désormais après l'avoir conspué. Mais les Algériens que vous avez rencontrés, Ouaïba Filali, dénoncent un double jeu indigne.
À Bablouad, dans l'un des quartiers les plus populaires de la ville, Bilal, 28 ans, est vendeur de mhajib, des galettes à base de tomates et d'oignons, qu'il vend 30 dinars dans un petit restaurant d'à peine 10 mètres carrés. Près de lui, une petite radio le tient informé des dernières nouvelles.
Je ne veux même pas parler du FLN, car ces gens-là n'ont rien à voir avec le parti. Le FLN est trop grand pour eux. Le FLN, pour moi, ce sont les martyrs de la révolution. Ce ne sont pas ces petits singes. Eux, ce sont des opportunistes. Ils ont truqué le parti pour s'accaparer le pays. Et là, ils jouent un jeu stupide.
À la faculté centrale d'Alger, cette fois, Selima, 23 ans, met au point les derniers préparatifs pour la manifestation d'aujourd'hui. Parmi les pancartes qu'elle écrit, il y a un FLN dégage.
Ils nous prennent pour des gens bêtes, qui ne peuvent pas analyser la situation, et ça, c'est une insulte.
Une déclaration de Mohamed Bouchareb, l'un des cadres du parti, a particulièrement agacé cette étudiante en biologie.
Surtout quand un journaliste lui a demandé. Vous répondez quoi au peuple qui demande au FLN de dégager? Il lui a dit, moi j'ai jamais entendu ça. Le peuple, il a jamais parlé du FLN. Je sais pas comment ils font pour mentir au peuple comme ça. C'est choquant.
Seul point positif, conclut la jeune femme, cela montre que le régime commence à être déstabilisé par le mouvement.
Au Venezuela, le pouvoir de Nicolas Maduro s'attaque au bras droit de son opposant Juan Guaido. Le député Roberto Marrero, arrêté nuitamment et accusé de terrorisme. L'Union européenne demande sa libération immédiate. Et puis au Brésil, voilà un deuxième ancien président sous les verrous. Michel Temer, qui vient de laisser sa place à Jair Bolsonaro, a été arrêté, soupçonné d'avoir touché des pots de vin sur des contrats de maintenance d'une centrale nucléaire. La justice le considère comme le chef présumé d'une organisation criminelle.
Il est 8h12, Florence, en France, le retour du préjudice d'anxiété devant la justice.
Oui, la Cour de cassation se prononcera cet après-midi sur le cas de 28 anciens d'EDF exposés à l'amiante. Ils ont vu des camarades en périr, ils se demandent constamment ce qui va leur arriver, comme Jean-Marie Marcos, 64 ans, travailleur de la centrale thermique de Creil dans les années 80.
Mon rôle, c'était de surveiller les installations et d'effectuer des manœuvres sur place. Les tuyauteries, les grosses vannes, essayer d'imaginer un petit peu comment se fait une centrale, tout ça c'est bien protégé, calorifugé, par de l'amiante. Pendant des périodes des révisions, l'alternateur s'arrêtait, des mécaniciens, des chaudronniers, un petit peu de tous les métiers venaient et intervenaient sur toutes ces pièces. Ça travaillait à tout va, ça inspirait d'un côté, ça soufflait d'autre et on était dans un nuage de poussière. Je savais pas que c'était dangereux quoi. Et puis effectivement après dans le temps, j'apprends, tiens, un collègue est décédé. Et puis après, j'ai entendu parler qu'on pouvait faire quelque chose, quoi, parce qu'on avait toute cette épée au-dessus de nos têtes. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris que même ma femme, en restant à la maison, elle pouvait avoir des problèmes aussi, puisque j'ai une épouse de collègue qui est décédée, mardi dernier, de ça. Elle a jamais mis les pieds dans une centrale. Tout ça parce qu'elle avait ses bleus.
Voilà le témoignage de cet ancien d'EDF au micro de Sarah Guibaudot. Les pharmaciens et les sages-femmes pourraient bien prescrire des vaccins, c'est nouveau. Les députés l'ont voté hier soir à l'Assemblée dans le but de renforcer la couverture vaccinale en France, l'une des plus faibles d'Europe. C'est un joyau de la Méditerranée menacé par le tourisme de masse, la réserve naturelle de Scandola à l'ouest de la Corse. Ces animaux sous-marins vont disparaître si rien ne change, alerte 9 associations corses de défense de l'environnement. Elle demande des mesures d'urgence au ministre de la Transition écologique François de Rugy pour qu'il limite la plaisance sur place dès l'été prochain. Reportage signé Célia Quiret.
Des eaux cristallines, des falaises rouges qui se reflètent dans la mer, la réserve de Scandola est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais elle n'est pas assez surveillée et les animaux, oiseaux et cétacés la désertent. Ils sont en effet dérangés plus de 400 fois par jour en été par les bateaux qui se précipitent pour visiter les grottes. Laurence Constantin est capitaine de voilier et présidente d'une association environnementale en Corse. Elle voit bien que la biodiversité s'effondre, en particulier pour les rapaces.
On sait que le balbuzard, qui est une espèce très 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 en danger et qui a très peu de naissances, a besoin d'un silence quasiment absolu pour pouvoir naître en fait, que les petits s'envolent, etc. On sait aussi que la pollution sonore sous-marine, c'est un fléau face aux cétacés par exemple, qui ont vraiment du mal à se nourrir, les poissons à communiquer entre eux parce que la nuisance sonore va masquer leur propre bruit de communication. Tous les passages de bateaux, le bruit des hélices, le bruit des groupes électrogènes, le bruit des moteurs, fait que la faune déserte le lieu.
Ces associations demandent donc d'urgence la création d'une zone d'interdiction d'accès pour les bateaux et elles commencent à être entendues. Hier, une réunion sur le sujet avait lieu à Corte. L'Office de l'environnement de Corse est prêt à limiter dès cet été le trafic des bateaux pour sauver cette pépite. Sinon, explique l'Office, il n'y aura bientôt plus rien à visiter.
Le sombre inventaire du Grande America, du White Spirit, de l'acide chlorhydrique, des fongicides, des tonnes de pneus, de l'engrais, voilà ce qui repose avec le bateau qui a sombré le 12 mars au large de La Rochelle. Chișinău, Nicolas, capitale de la Moldavie et première étape sur la route de l'Euro 2020. Pour finir ce journal, les Bleus y font escale ce soir. Moldavie-France, ce sera le tout premier match entre les deux nations, les champions du monde, contre une très modeste nation du football, Cédric Guillou.
Didier Deschamps a beau égrener avec précision les noms de certains joueurs moldaves, peu de chances qu'ils vous disent quelque chose.
Il y en a un qui est jeune, c'est Damascan qui est au Torino. Ionita, lui, à Cagliari aussi en Italie. Il y a Antoniescu sur le côté droit. Zinzari, côté gauche, est intéressant aussi.
La plupart des internationaux moldaves évoluent en Italie, en Turquie, en Russie ou encore aux Pays-Bas. Une sélection composée de joueurs expérimentés et de plus jeunes espoirs.
On a regardé tout leur dernier match de la Nation League où ils ont été plutôt performants, surtout chez eux, où ils prennent peu de buts. Il y a une grande majorité du 11 titulaire, entre guillemets, qui évolue à l'étranger, avec des joueurs assez expérimentés. C'est une équipe qui se connaît bien, mais il y a des jeunes aussi qui arrivent, donc on les a étudiés avec beaucoup de sérieux.
La sélection moldave n'a remporté aucune rencontre lors de ses deux dernières campagnes qualificatives pour la Coupe du Monde 2018 et pour l'Euro 2016, 20 matchs sans le moindre succès. Elle n'est classée qu'à la 170e place du classement FIFA.
Et sur le terrain, côté bleu, les deux sportifs français les plus payés de 2018 selon le classement de l'Équipe Magazine. Antoine Griezmann, 33 millions d'euros bruts. Kylian Mbappé, 20 ans et 25 millions d'euros.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Et une très belle journée en perspective, Marie-Pierre.
Et oui, le soleil va s'imposer quasiment partout, avec simplement quelques bandes brumes aux nuages bas entre le Cotentin et les Flandres. Quelques mulus aussi, on aura sur les Pyrénées un vent de nord-est qui va souffler du nord au sud de la Corse jusqu'à 50 km par heure. L'ambiance reste fraîche après les petites gelées matinales, mais très rapidement le soleil va réchauffer l'atmosphère et on va faire le grand écart, car très vite on va se croire au mois de mai. On attend au plus bas 12 à Dunkerque, 14 à Paimpol, 16 à Lorient, 17 à Lille et à Nancy, comptez 18 à Paris, Aurillac, 20 à Lyon, 21 à Saint-Symphorien dans les Deux-Sèvres, à Toulouse, à Saint-Jean-de-Luz, à Saint-Raphaël ou Ajaccio, 22 sur la Canebière et le maximum est prévu à Nîmes avec 23.
Et le beau temps va continuer.
Oui, avec un week-end printanier, avec demain toujours quand même quelques nuages sur les côtes de la Manche. Un petit vent de nord-est qui va se mettre en place et qui va rafraîchir un peu l'atmosphère à partir de dimanche. Mais vous pouvez compter partout ailleurs sur un temps ensoleillé.